C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est le ton qui fait la panique. Chaque semaine dans ce magazine, nous analysons l'impact des mots, du langage et des discours sur notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi complexe que sensible, le traitement linguistique de l'autre, autrement dit de l'étranger en République démocratique du Congo. C'est un thème qui revient souvent dans le débat public, n'est-ce pas, Romy?
Absolument, Poli, et il est particulièrement d'actualité, surtout après les récents événements au site Kivu, où une vingtaine de ressortissants chinois ont été arrêtés pour exploitation illégale de l'or. Cette affaire, largement relayée sur les réseaux sociaux, alimente une rhétorique souvent négative et stigmatisante envers les étrangers. On voit des internautes généralisés en présentant, par exemple, les étrangers comme les principaux responsables du pillage de ressources naturelles de la RDC et des violations de lois nationales. Mais comment passe-t-on d'actes isolés commis par certains individus étrangers à des généralisations qui englobent tous les étrangers et surtout, quelles peuvent être les conséquences de ce type de discours?
C'est exactement ce que nous allons voir dans cet épisode. Nous tenterons de comprendre pourquoi et dans quel contexte ce langage envers les étrangers se développe, mais aussi comment il peut devenir un facteur de division et potentiellement susciter de nouveaux problèmes, Romy.
Dans un premier temps, nous allons analyser comment les discours sur les étrangers sont construits et perçus. Ensuite, nous examinerons les dangers de ces discours qui épinglent des incidents isolés pour stigmatiser les étrangers de manière indistincte. Enfin, nous allons explorer des pistes pour encourager un langage plus inclusif et nuancé sur les personnes perçues comme étrangères.
Et pour enrichir notre débat, nous avons le plaisir de recevoir Alain-Joseph Lomanja. Il est docteur en éthique sociale. Bonjour docteur Lomanja et bienvenue à vous.
Bonjour Pauli et bonjour à tous les auditeurs.
Avant d'ouvrir le débat, place à notre premier sketch radiophonique. Cette scène met en lumière une discussion entre des étudiants sur un campus où l'on entend des jugements portés sur les étrangers. On écoute.
Oui, tu vois maintenant. Tu vois maintenant. La porte de la salle d'informatique a été bloquée suite à cette affaire de vol d'ordinateur qui a eu lieu.
Mais Mbouda, à quoi tu t'attends encore hein? C'est ça la conséquence lorsqu'on ouvre les portes de l'université à des intrus qui ne viennent que pour saboter la vie au campus.
Tu as vraiment raison. Et je remarque aussi que c'est depuis que notre campus est infesté par ces étrangers qu'il y a de plus en plus de problèmes. Ah. Tu remarques pas?
Maintenant, à cause de ces perturbateurs, quand on est venu au chien de quoi ça m'a été pas dit que c'est pas religieux les loutons.
Un peu de retenue quand même. Y a quoi?
Ils sont en colère là.
Un peu de retenue? Hein? Oh, ne trouvez-vous pas que c'est quand même hâtif de tenir ces langages?
Comment ça hâtif?
Non mais vous accusez tout de suite les étudiants étrangers pour la perte de cet ordinateur.
Kitoko, tu oses donc défendre ces voleurs?
Non mais personne n'en sait grand chose jusqu'ici. Hein? Aucune enquête n'a été faite, papa.
Non mais Kitoko, depuis la nuit des temps, Kitoko, nous savons bien que les étrangers ne sont pas ici forcément pour étudier.
Ils sont venus nous pour voler et espionner.
C'est vraiment une grave erreur. C'était une grave erreur de laisser venir ces métèques qui phagocytent la vie progressivement la vie au campus.
Il faut se débarrasser de toutes ces poisses qui nous entourent. Sinon, aussi longtemps qu'elles seront là, elles répandront leur poison et rien ne marchera plus au campus.
J'ai dit, c'est moi qui vous le dis.
Vous avez de preuves en Cambo, le bras la
preuve.
Oui.
Regardez les gars. Quelqu'un m'a prêté son ordi. Mais non, on va faire nos
devoirs. Arrête de jouer la comédie, man. Oh. Arrête. Tu n'es pas notre ami.
Mais quoi?
Tu t'es comme Moumoutou. Et là, oui.
Qu'est-ce que je fais?
Toi aussi, tu es l'un d'eux. Oh. Espèce d'étranger. C'est à cause de vous que nous sommes devenus malheureux au campus.
Quoi?
Imbécile, calme-toi.
Qu'est-ce que je fais? Mais il faut aller jouer, tout
le monde aussi, qu'est-ce qu'il a fait?
C'est depuis que notre campus est infesté par ces étrangers qu'il y a de plus en plus de problèmes, déclare l'un des personnages dans le sketch. Alain-Joseph Lomanja, pourquoi selon vous ce type de discours pointant du doigt les étrangers se développe-t-il au sein des sociétés humaines? Quelles en sont les origines et surtout comment expliquer l'attrait qu'il semble susciter, notamment sur les réseaux sociaux?
Alors, pour répondre à votre question, j'aimerais partir du discours du professeur Bimwenyi, Oscar Bimwenyi, qui, dans son livre Le discours théologique négo-africain, avait souligné le fait que l'étranger pouvait représenter pour la personne qui l'accueille à la fois une menace et une chance. Mmh. Une menace dans ce sens que l'étranger, c'est d'abord un inconnu, c'est lui qui m'apporte ce que je ne maîtrise pas, et c'est lui dont je ne connais pas parfaitement les intentions et dont je dois, dans une certaine mesure, me méfier, mais aussi, en fonction du principe de l'hospitalité, je dois veiller sur lui, et donc il m'impose comme une responsabilité supplémentaire. Mais en même temps, il soulignait le fait que l'étranger peut être aussi une chance pour la personne et la communauté qui l'accueille, en ce sens que un étranger peut devenir un allié dans des situations difficiles ou pas difficiles. Un étranger peut être pour moi une possibilité de progrès dans la vie. Et c'est là que je voudrais peut-être, pour revenir à votre question, souligner le fait qu'en règle générale, il y a des facteurs sociaux, des facteurs sociologiques, des facteurs économiques qui conditionnent un peu le regard que l'on peut avoir sur les étrangers. Dans une société, par exemple, qui a déjà en but à un chômage, un taux de chômage élevé, on aura tendance à regarder les étrangers comme les envahisseurs qui viennent occuper les tâches, les travaux que les nationaux auraient pu accomplir, et vous aurez les discours extrémistes comme on le voit dans d'autres pays, comme en France ou ailleurs, où les étrangers sont un peu les boucs émissaires de tous les maux sociaux dont souffrent les nationaux. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, nous sommes un État-nation avec des communautés plus ou moins construites autour de la tribu, des liens de sang et des liens tribaux, et qui ont tendance à se méfier des personnes qui viennent d'ailleurs. Et si, comme nous sommes dans le contexte de la région des Grands Lacs, si on prend le fait qu'il y a des guerres qui sont nées dans les camps des réfugiés, dans les camps des personnes venues d'ailleurs, on comprend aussi toute la méfiance qu'on peut constater envers les personnes étrangères.
Alors, monsieur l'abbé Alain Lomanja, je vous ai suivi religieusement. Lorsqu'on vous écoute parler, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que ces genres de réactions sont surtout dues à l'injustice perçue par certains, ou il y a encore d'autres facteurs que nous pouvons épingler dans cette production?
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le regard peut être conditionné par plusieurs facteurs. Ça peut être l'injustice, comme vous le dites là, mais cette injustice peut être une injustice réelle ou tout simplement une perception d'injustice. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de job et qui voit des personnes étrangères trouver des emplois correspondant à leurs compétences, il aura le sentiment que c'est injuste que ces personnes-là occupent ces postes qui devaient revenir d'abord aux nationaux. L'injustice dans ce cas-là relève de sa perception et peut-être pas de la réalité, parce que probablement que lui-même n'a pas les compétences requises pour ce travail. Mais alors, dans le domaine des conflits sociaux, évidemment, comme nous l'avons dit autrefois, la perception joue un rôle important, et donc c'est la perception qui conditionne le regard que les gens portent sur les étrangers.
Merci beaucoup Alain-Joseph Lomanja pour ces premières analyses. Je vous propose à présent de passer à notre deuxième sketch radiophonique. Cette fois-ci, les étudiants expérimentent les conséquences des accusations sans nuance portées contre ceux qui sont perçus comme des étrangers. On écoute.
Je ne vais pas
Arrête. Vous n'avez pas de preuves, mais vous accusez les gens comme ça.
Amani, maintenant tu vas répondre à la place de tous tes frères envahisseurs s'ils ne ramènent pas l'ordinateur qu'ils ont volé.
Exactement.
Mais c'est quoi votre problème?
Donc selon vous, être étranger rend quelqu'un automatiquement voleur. D'ailleurs, depuis que je suis devenu étranger,
c'est ça aussi.
Dites-moi, je t'informe que j'ai la même nationalité que vous.
Tu es l'un d'eux. Exactement. Nous avons découvert que la nationalité de ton père est
douteuse.
Vous devez peser vos mots quand même. Car jusque-là, les enquêtes sont en cours et rien ne prouve qu'un étranger est derrière ces dossiers de vols d'ordinateurs. Rien ne prouve.
Pourquoi veux-tu défendre ces gens?
Maman,
qu'est-ce que tu y gagnes?
Donc ce que nous disons là, c'est aussi pour ton intérêt.
Ces étrangers sont dangereux, ils sont corrompus, illégaux et criminels.
C'est ça, Moudin. C'est ça.
Oui,
parce que... Écoutez... Préparez-vous, hein, parce qu'il n'y a que de mauvaises surprises qui vont s'enchaîner ici. Qui vont suivre à cause de leur présence au campus.
Et puis Kitoko, hein, ne sois pas naïf. Ces étrangers font semblant d'être de bonnes personnes à tes côtés pour te distraire et ensuite pour avoir une bonne occasion de te débrouiller de tout.
Arrêtez. Vous dites n'importe quoi alors que vous n'avez pas de preuves. Ou alors c'est peut-être vous-même des voleurs. Si vous essayez d'adopter ces langages pour ne pas être démasqué.
Ça peut être ça.
Même étranger.
Oui.
Moi, la cas étrangère. Moi, tu oses tenir un tel langage envers nous, les autochtones.
Commence à tabasser Amani pour lui donner un exemple.
Arrêtez-moi.
Ces étrangers sont dangereux, ils sont corrompus, illégaux et criminels, assène l'un des étudiants. On voit ici un discours sans nuance qui dépend de manière négative à indistinct tous les étrangers. Docteur Lomanja, quelles sont selon vous les conséquences de ces discours globalisants et stigmatisants dans un monde qui est de plus en plus interconnecté?
À partir du moment où on commence à tenir un discours extrême sur les étrangers, il va de soi que la qualité de l'accueil, la qualité de l'hospitalité va en pâtir. Et il y a aussi le fait que on oublie le fait que soi-même, on peut à un moment donné de son existence se trouver en dehors de son pays, en dehors de sa province et devenir aussi un étranger par rapport aux autres. Et c'est là que j'observe quand même un certain paradoxe dans la réaction des Africains. Nous sommes en général les personnes qui condamnent le racisme, les discours racistes que nous observons chez les autres quand nous sommes dans des pays étrangers. Mais en règle générale, notre attitude vis-à-vis des autres n'est pas différente de ce que nous condamnons chez les autres. On peut trouver aussi une forme de racisme à rebours auprès des personnes qui ont été victimes de racisme. On peut trouver aussi dans nos communautés une forme d'exacerbation des identités tribales qui font que on pense par exemple que né congolais, que c'est lui qui n'est pas né à côté d'une frontière, on va soupçonner tous les ressortissants des régions frontalières d'être des étrangers ou en collaboration ou en mèche avec les étrangers. Et là, je voudrais insister sur le fait que le discours politique ne permet pas toujours d'apaiser ces genres de perceptions parce que pendant les campagnes électorales, on entend une certaine rhétorique sur les étrangers qui ne favorise pas l'accueil et l'hospitalité. Et d'ailleurs, chez nous, c'est devenu coutume qu'une partie de la population congolaise soit qualifiée de personnes étrangères par rapport aux autres.
Et justement, avec quelles conséquences sur le tissu social, ce type d'accusation formulée contre des compatriotes qui seraient soi-disant étrangers?
La première conséquence, c'est le fait que la cohésion sociale ne va plus exister. On va entrer dans une forme de méfiance mutuelle. On regarde l'autre comme un ennemi possible de la nation. On ne l'accueille plus comme frère, comme compatriote, comme concitoyen. Et cette méfiance va aussi se manifester même dans le domaine du travail, même dans le domaine des emplois, si c'est moi qui suis responsable quelque part, je vais m'arranger pour n'avoir que les gens de mon coin qui pourront m'aider, comme c'était dit dans une pièce de théâtre devenue célèbre autrefois, le délégué général. Les gens de chez moi m'aident à dormir tranquillement sans être dérangé. Et là, petit à petit, le sentiment d'appartenance à une même nation s'effrite. Et bon, on voit les autres conséquences, par exemple, qu'il y ait des gens qui prennent les armes pour défendre leur nationalité, même si je ne pense pas que c'est toujours pour de bonnes raisons que c'est, que cela est fait, qu'il y ait des gens qui croient que ils ont le monopole d'appartenance à la nation et le monopole de l'amour de la patrie. Donc la grande conséquence, c'est l'exclusion de l'autre. On n'accueille plus l'autre, on l'exclut, on les met à l'écart, et cela a d'énormes conséquences dans la vie sociale.
Merci Alain-Joseph Lomanja pour ces explications détaillées. Comme dans n'importe quel groupe humain, certains étrangers vivant en République démocratique du Congo commettent des actes répréhensibles, interdits par la loi. Mais d'autres, certainement plus nombreux, vivent et travaillent dans ce pays tout en respectant ses lois et ses coutumes. Quel genre de conséquences ces discours stigmatisants pourraient-ils avoir sur ces bons étrangers, entre guillemets?
Ah oui, en fait, le problème, c'est quoi? On a parfois l'impression qu'à partir du moment où on a ciblé une communauté, une catégorie de personnes habitant dans un pays, on leur attribue tous les maux, même de manière non vérifiée. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? On va tomber dans les généralisations abusives du genre les étrangers sont liés à l'insécurité. S'il y a l'insécurité dans notre pays, c'est parce qu'il y a des étrangers. Chez nous, par exemple, en RDC, on aura tendance à dire, par exemple, que les étrangers, là, sont, comme vous l'avez dit au début, sont là pour les pillages des ressources naturelles du pays. Et donc, on va se méfier de tout le monde. Mais si vous permettez, peut-être il y a un autre aspect qu'on peut prendre en compte, parce que ce n'est pas parce qu'on parle de l'étranger, de notre regard sur l'étranger, qu'on ne peut pas relever cet aspect-là. Quand vous avez, par exemple, des étrangers qui viennent au pays, qui emploient des nationaux et qui ne les traitent pas conformément aux lois du pays, là, il y a quand même un sérieux problème, parce que les étrangers doivent aussi se conformer à la législation du travail du pays. Et quand vous avez des nationaux qui sont embauchés, c'est des personnes étrangères, mais qui sont traités comme n'étant pas des personnes humaines, là, je pense qu'il y a un problème de justice, un problème d'équité dont il faut tenir compte, indépendamment du statut des auteurs de ces traitements-là.
Merci encore pour votre intervention. Enfin, place au troisième sketch. Après avoir bien sûr expérimenté les dangers des discours stigmatisants, les étudiants apprennent à utiliser un langage plus inclusif et nuancé. On écoute.
Mais qu'est-ce qu'il y a?
Donnez-moi cette pierre-là, je vais lui lancer.
On va vous chasser tous ici. On va vous chasser.
Non, mais ça suffit, le gars. Ça suffit. Non, mais attends. Vous ne vous rendez donc pas compte que ce langage que vous tenez envers les étrangers est dangereux.
Mais depuis... Non, mais vous ne vous rendez pas compte.
Mais depuis quand dire la vérité irréprochable? Depuis quand? Je vous préviens que si vous continuez à tenir un tel langage envers les étrangers et que quelque chose leur arrive, c'est vous qui risquerez d'être chassé du campus. Et ça, je vous le dis, hein, je te rappelle que cette université a toujours été inclusive. Ça, je te l'ai dit.
Écoutez, moi, en tant que porte-parole des étudiants, je n'hésiterai pas à employer n'importe quel langage qui s'impose pour dénoncer ces envahisseurs et protéger mes frères du même nombril.
Porte-parole, mon œil. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Hein?
Oh, mon Dieu!
Hein? Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Quoi?
Ces messages nous annoncent qu'il y a une erreur lors du comptage d'ordinateurs dans la salle d'informatique.
Quoi? Attends. Donc, aucun ordinateur n'avait été volé.
Tu l'as dit.
Oui. Nous sommes foutus?
C'est compliqué, là.
Mais
On fait comment maintenant?
Vous voyez?
Je sais pas. Je comprends.
Vous voyez à quel point votre langage négatif envers les étrangers vous créera des problèmes. Vous voyez? Et le mal que t'as fait aux étudiants étrangers.
En fait, avec Moui, nous sommes vraiment désolés.
Vous oubliez qu'il y a même des profs étrangers qui sont venus dans notre université pour vous éduquer. Vous devez avoir honte de vous-même.
Je vous préviens que si vous continuez à tenir un tel langage envers les étrangers et que quelque chose leur arrive, c'est vous qui risquez d'être chassé du campus, prévient l'une des étudiantes. Docteur Alain-Joseph Lomanja, selon vous, en tant que société, de quelle manière est-ce que nous pouvons promouvoir un discours plus inclusif et plus nuancé sur les étrangers?
Je crois que la première manière pour promouvoir un discours plus inclusif par rapport aux personnes étrangères dans une nation, c'est de tenir en fait compte des évolutions du monde moderne. Nous vivons de plus en plus dans des sociétés interconnectées où il devient pratiquement impossible d'établir des nations à l'état pur où vous n'avez qu'une seule catégorie d'habitants. Non, cette époque-là est déjà révolue. Le monde est de plus en plus ouvert, le monde est globalisé, les sociétés sont interconnectées et donc nous aurons toujours à faire face à vivre avec des personnes venant d'ailleurs. Et dans ces cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est de comment je fais en sorte que la présence de l'autre soit une chance pour moi et que moi je représente en même temps une chance pour l'autre. C'est la question que je dois me poser personnellement et je pense que nous avons tous l'obligation de tenir compte des différentes mobilités qui ont marqué cette société dans laquelle nous vivons. Il y a des mobilités géographiques, les mobilités politiques, les mobilités matrimoniales. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus des Congolais, qui sont mariés aux Rwandais, aux Ougandais ou même aux étrangers, aux Européens. On ne va pas briser les familles et même à l'intérieur de la nation congolaise, à l'intérieur de nos tribus, vous avez des gens de telles tribus qui ont épousé d'autres, qui viennent d'autres tribus. Et il faut tenir compte de ces évolutions-là et ne pas penser que nous allons revenir à la société antique où les gens étaient entre eux.
Vous décrivez là, Alain-Joseph Lomanja, une société ouverte avec des valeurs tournées vers l'autre, des valeurs de tolérance, d'universalité. À partir de quel moment est-ce que, en tant que société, on devrait commencer à inculquer ces valeurs aux plus jeunes?
Je pense que ça devrait avoir déjà commencé parce que nous ne sommes pas en train de construire une société qui n'existe pas. Là, nous parlons d'une société, de la société telle qu'elle se présente actuellement. Où que vous alliez, partout, même à l'intérieur, au fin fond du Congo, vous allez trouver un Chinois, vous allez trouver un Libanais, vous allez trouver un Sénégalais qui tient un magasin à tel endroit. Donc, nous sommes déjà dans cette société pluridimensionnel, pluriethnique, plurirracial. Et donc, c'est maintenant qu'il faut déjà commencer à inculquer ces valeurs-là aux enfants pour que l'autre ne soit pas regardé comme une menace, mais qu'il soit regardé comme une chance et une opportunité.
Docteur Lomanja, bien sûr, il y a 2 ans, une loi contre la xénophobie, les racismes et les tribalismes avait été introduite à l'Assemblée nationale. À quel point ce type de disposition législative pourrait-il dissuader les propos ouvertement xénophobes?
Bon, déjà, on a un sérieux problème chez nous. C'est que nous avons tous les textes de loi et les bons textes de loi qu'on n'applique pas forcément. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ces dispositions de loi peuvent nous aider, mais l'avantage, c'est de les avoir déjà et ça peut contribuer à dissuader les personnes qui seraient tenter de se recroqueviller sur eux-mêmes ou sur leur ethnie ou leur tribu. Et deuxième chose, je ne sais pas vraiment si c'est d'abord un problème de texte de loi. Je crois que c'est un problème de société que nous devons prendre à bras le corps et essayer de les résoudre par des voies différentes, notamment par la voie de l'éducation aux valeurs d'ouverture dont nous avons parlé tout à l'heure, mais aussi par le fait que si déjà au niveau de la nation, nous pouvons tenir compte des besoins de chacun, des droits de chacun, nous donnons en même temps aux gens la possibilité de ne pas se sentir constamment menacés par les autres. Mm-hmm. Parce que ce que j'ai observé personnellement, c'est que le discours anti-étranger, c'est des discours qui naissent dans des situations de crise sociale, des crises économiques, et en ce moment-là, les gens cherchent à se protéger parce qu'ils se sentent en insécurité. Je ne voudrais pas psychologiser le débat, mais en fait, quand on est en insécurité sur le plan de l'emploi, sur le plan de besoins élémentaires, on aura tendance à regarder les origines des gens et à ne pas s'ouvrir à l'accueil et à l'hospitalité.
Voilà donc qui nous permet de clôturer cet échange particulièrement intéressant. Merci à notre invité Alain-Joseph Lomanja pour la pertinence de ses interventions. Aujourd'hui, nous avons vu comment le langage, lorsqu'il stigmatise l'autre, l'étranger, peut donc devenir un puissant vecteur de division. Nous avons également exploré des pistes pour inverser cette tendance linguistique.
Oui, Pauli, ce que nous retenons, c'est que les mots ont un poids. Ils peuvent blesser, diviser, mais aussi rassembler et construire en adoptant une communication plus responsable, en évitant les généralisations et en valorisant la diversité. Nous pouvons bâtir une société qui est plus harmonieuse.
Et cela passe donc par des efforts conjoints, des lois qui protègent, des médias qui informent avec nuance, des éducateurs qui sensibilisent et des citoyens qui participent au débat public en toute responsabilité. Chaque mot compte.
Merci ainsi à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission et des sketchs radiophoniques.
Et bien sûr, un immense merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention et votre fidélité. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Retrouvez cet épisode en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05 ou en podcast sur www.radiookapi.net et www.abarirdc.net. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur nos pages Facebook et X. Merci, à très bientôt pour un nouvel épisode.
D'ici là, prenez soin de vous et rappelez-vous surtout que les mots que nous choisissons façonnent le monde dans lequel nous vivons. Au revoir.
La panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.